Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous pour un nouveau numéro consacré à l'actualité de Toulouse Métropole. Dans cette émission, nous évoquons régulièrement les questions de l'urbanisme et de l'habitat, les projets qui sont en cours dans ces domaines. Je rappelle que la population métropolitaine augmente chaque année de 13 000 personnes par le solde naturel ou par l'arrivée de nouveaux venus. Une évolution qui démontre l'attractivité de notre territoire, mais qui impose de construire les infrastructures permettant d'accueillir et de loger ces habitants fraîchement arrivés. Il faut des équipements, des écoles, des crèches, une offre de transport et de logement adaptée à cette population en croissance forte et continue. Le logement, voilà certainement un des principaux enjeux et défis à relever pour la métropole toulousaine dans les années et même les décennies à venir. C'est un sujet complexe dans la mesure où il intègre de nombreuses contraintes urbanistiques, climatiques et environnementales. Et pourtant, on en parle assez peu finalement. Nous allons en parler au cours de cette émission et faire le point sur la situation du logement et l'action de Toulouse Métropole dans ce domaine. Et pour en parler, je reçois Karine Trabal-Michelet, maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'habitat et du logement. Bonjour Madame la vice-présidente et merci d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur ce délicat sujet du logement que vous devez aussi traiter en tant que maire de Colomiers, la deuxième ville de la métropole en nombre d'habitants, mais aussi du département, rappelons-le.
Exactement, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un sujet, vous avez raison de le dire, extrêmement important et néanmoins, on peut constater qu'il n'a pas encore complètement pénétré le débat public. Et je m'en étonne régulièrement parce qu'il faut savoir quand même en quelques chiffres que la dépense pour son logement est une dépense des plus contraintes des ménages et qui n'a fait que évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que là où il y a 30 ans, cette dépense représentait peut-être 5 à 10% des dépenses contraintes d'un ménage. Elle représente aujourd'hui entre 25 et 30% et c'est une dépense contrainte parce que avoir un logement, c'est aussi la première chose qui concerne chacune et chacun et qui est malheureusement souvent une problématique. Et vous avez raison quand vous dites que c'est un débat qui ne pénètre pas le débat public. Moi, je suis toujours assez surprise et je le dis régulièrement à mes interlocuteurs. On peut constater d'ailleurs qu'au niveau national, c'est un sujet qui est peu évoqué au point que lorsque on nous annonce sur le perron de l'Élysée les nouveaux gouvernements, eh bien, on a pu constater que parfois même, on n'a pas de ministre du logement. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas et tant mieux. Ou sinon, évidemment, avec l'instabilité politique aussi que nous avons depuis quelques années en France, eh bien, les ministres du logement se succèdent et n'ont pas toujours forcément le temps d'imprimer une politique nationale qui viendrait en effet porter ce sujet au bénéfice des citoyennes et des citoyens qui, en effet, peuvent être en difficulté par rapport à cela. Alors, ce ne sont pas 13 000 habitants qui arrivent chaque année dans la métropole, ce sont 9 000 habitants qui arrivent chaque année dans la métropole, ce qui est déjà beaucoup. C'est vrai qu'on est une métropole extrêmement attractive et c'est un chiffre qui ne se dément pas depuis des dizaines d'années et vous l'avez bien précisé. C'est un chiffre qui relève à la fois du solde naturel, c'est-à-dire les décès moins les naissances, et du solde entre guillemets migratoire, c'est-à-dire des personnes.
Les gens qui arrivent et ceux qui partent aussi.
Voilà, des personnes
aussi,
qui viennent.
Ça va dans le sens de l'augmentation.
Du fait de l'attractivité de la métropole, son attractivité, sa richesse, à la fois économique, culturelle, sa dynamique, viennent sur la métropole toulousaine pour y trouver aussi, il faut bien le dire, une belle qualité de vie.
Alors donc, le besoin au logement. Il a été évalué, je suppose.
Oui.
À quel horizon on peut donner des chiffres aujourd'hui du besoin que nous allons avoir pour loger cette population qui ne cesse d'augmenter ?
Alors, justement, nous avons travaillé avec l'ensemble des élus de la métropole. La métropole, il faut le rappeler, ce sont 37 communes qui ont travaillé, tous les élus ont travaillé au nouveau document d'urbanisme et au nouveau document qui constitue le plan local, le plan métropolitain de l'habitat, pour faire simple. Et ces chiffres, donc, ont été réexaminés, réappropriés à l'occasion de ce travail de fond que nous avons fait sur ces documents d'urbanisme et sur ce document qui constitue le plan local de l'habitat pour les années 2025-2035. Si on considère un chiffre, comme je le disais, qui ne se dément pas, d'environ 9 à 10 000 habitants chaque année, nous avons un besoin de 7 000 logements par an. Donc, ce qui semble beaucoup finalement, mais on peut revenir sur les chiffres, c'est un objectif qu'on atteint régulièrement, sans discontinuer depuis maintenant plus de 10 ans, sans trop de difficultés. Je veux aussi préciser que quand on parle de logement et de besoin en logement, ça concerne toutes les strates de la population. Moi, je le vois en tant que maire aussi, et je le partage avec mes collègues maires. C'est quoi ces besoins en logement? C'est, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, des gens qui viennent pour travailler ici, mais ce sont aussi nos jeunes, nos enfants, qui prennent leur indépendance, qui démarrent dans la vie professionnelle et qui ont envie de quitter le foyer familial. Ce sont aussi nos seniors qui vivent de plus en plus longtemps et qui ont besoin aujourd'hui de logements adaptés à leur situation. Ce sont aussi ces nouvelles familles. On a une structure familiale aujourd'hui qui n'est plus celle d'il y a 20 ou 30 ans. On constate des séparations et des parents qui, pour autant, ont envie de rester sur la même commune pour pouvoir élever et voir leurs enfants. C'est-à-dire que là où il nous fallait avant un seul logement, très classiquement le T4 pour les parents et les deux enfants, on va prendre la famille typique, eh bien aujourd'hui, eh bien, il nous faudra deux logements. Et parfois aussi des logements plus grands pour des familles qui se reconstituent. Donc il faut aussi appréhender toutes ces nouvelles formes sociologiques pour comprendre aussi ces besoins en logement. Et puis enfin, depuis le Covid aussi, il faut le dire, on a des nouvelles formes de travail avec ce qu'on appelle et ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de télétravail, c'est-à-dire des personnes qui restent aussi travailler chez elles et donc qui ont d'autres besoins, notamment plus qualitatifs, sur leur logement.
Il faut adapter les logements d'ailleurs à ces nouvelles formes de travail à domicile.
Exactement.
Le champ d'intervention de la compétence logement de Toulouse Métropole, quel est-il, notamment quel est-il par rapport aux communes métropolitaines? Comment tout ça s'agence-t-il?
Alors comme je le disais à l'instant, Toulouse Métropole est en compétence sur les documents cadres, sur la vision politique et sur les ambitions au niveau métropolitain. Ensuite, effectivement, chaque commune et chaque maire, chaque conseiller et conseillère municipale ont leurs propres responsabilités. Notamment, peut-être nos auditrices et nos auditeurs ne connaissent pas cette loi qui pourtant date de 2000, on a cette loi SRU qui impose à chaque commune d'avoir au minimum 20 jusqu'à 25% de logements locatifs sociaux sur leur commune. Et ça, c'est regardé à l'échelle de la commune. Ce chiffre-là, il est analysé à l'échelle de la commune. La métropole a compétence pour mettre en place les outils, le financement, la vision stratégique pour atteindre des objectifs qui ensuite vont être répartis dans un accord global des 37 communes territorialement pour que tout ne se concentre pas sur telle ou telle commune, mais qu'on ait une répartition territoriale qui tienne aussi compte de la spécificité de chaque commune. On ne va pas traiter pareil la ville de Colomiers, qui a des équipements importants en matière de transport en commun, en matière de culture, de sport, de loisirs, de proximité avec la ville de Toulouse, où, je prends toujours cet exemple, et son maire, Robert Medina, ne m'en voudra pas, la petite ville de Mondouzil, qui compte 400 habitants. Évidemment, on va le traiter différemment. Mais ce que je constate, moi, c'est que chaque maire à ces mêmes engagements, parce que chaque maire, effectivement, est face aussi à ses administrés et à ses jeunes, à ses seniors, à ses parents qui viennent voir leurs élus et disent « ben voilà, moi je souhaiterais avoir un logement et j'ai des difficultés ». Et donc ça, ça nous engage à tous et ça engage le maire au niveau communal. Et puis il faut rappeler que ce sont les maires qui signent encore les permis de construire et donc qui ont aussi une vraie vision, une vraie expertise de leur territoire. Mais je dois rendre à chacune et à chacun des élus de Toulouse Métropole que nous avons vraiment travaillé de façon extrêmement concertée On termine d'ailleurs l'enquête publique sur ces nouveaux documents d'urbanisme et du document relatif à l'habitat. L'enquête publique s'est terminée. Et,
vous parlez du PLUIH, voilà. Ce qu'on appelle le PLUIH.
J'essaie de ne pas trop utiliser...
Plan local, urbanisme, intercommunal, habitat.
Voilà, j'essaie de ne pas trop utiliser tous ces acronymes, parce que quand on disait en démarrant que finalement ces questions du logement, elles sont éloignées du débat médiatique, c'est aussi parce qu'elles sont souvent extrêmement techniques.
Oui.
Et donc, les gens, si on les interroge à titre individuel, oui, ça les interpelle, mais si on prend les enjeux majeurs auxquels ils vont répondre sur un plan collectif, eh bien, c'est pas forcément de cela dont ils vont parler, parce que ça leur paraît d'ailleurs souvent extrêmement technique.
Oui, et c'est aussi pour ça que cette émission existe, pour expliquer un peu la complexité de ces documents.
Exactement.
Et pour les mettre à la portée du citoyen. Je parlais des contraintes tout à l'heure, il y en a une qui a surgi il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui est un vrai casse-tête pour les élus, notamment dans une métropole comme Toulouse. Est-ce que ça pose vraiment autant de problèmes qu'on l'entend aujourd'hui s'agissant de l'habitat et du logement ?
Alors, nous avons, nous, réussi, et nous sommes la première métropole en France à avoir travaillé sur un document d'urbanisme qui intègre et est tout à fait conforme à cette nouvelle loi climat et résilience qui, en effet, vise à zéro artificialisation nette à l'horizon de 2050 et qui nous demande maintenant de réfléchir, et c'est ça la grande modification finalement, de réfléchir l'urbanisme différemment. Pendant des décennies, quand on a réfléchi urbanisme, quand on a réfléchi développement urbain, comment construire, où construire, on a travaillé et on a réfléchi avec un développement qui vient préempter sur des espaces naturels, agricoles, de loisirs. Et aujourd'hui, avec les contraintes, à la fois réglementaires, mais bien sûr d'enjeux liés des règlements climatiques,
oui.
Nous savons que nous devons réfléchir autrement. Et cette réflexion, elle nous impose de changer notre façon de voir l'urbanisme pour davantage travailler sur la ville qui se refait sur elle-même. Et ça aussi, c'est une difficulté par rapport aux citoyennes et aux citoyens qui sont souvent heurtés dans leur environnement et oui. Dans leur cadre de vie. Et ça suppose une acculturation qui doit être beaucoup plus importante, une prise en compte pédagogique qu'on essaie de faire, nous, les élus, mais qui est quand même extrêmement complexe. Et faite aussi d'injonctions un peu contradictoires, y compris de la part des citoyens qui sont... tout à fait d'accord quand on les interroge pour dire « Ah oui, c'est très important de préserver nos espaces naturels, nos espaces agricoles, la biodiversité. C'est important d'avoir, y compris dans des centres-villes, des espaces verts qui viennent lutter contre ces îlots de chaleur. » Mais quand on leur dit la contrepartie de cela, c'est qu'effectivement, il faut voir notre urbanisme différemment et peut-être construire davantage de collectifs avec beaucoup plus de qualitatif d'ailleurs que ce qu'on a pu faire précédemment. C'est-à-dire que si on prend beaucoup moins en termes de foncier et qu'on monte de 2 ou 3 étages, oui. On a un espace public qui est beaucoup plus important au lieu de cet étalement urbain qu'on a eu pendant des années. Mais ça suppose beaucoup de pédagogie,
beaucoup d'explications
et c'est ce que nous nous attachons à faire, nous les élus de la métropole.
Et de répétition, merci pour tous ces rappels qui vont être précieux pour la suite de notre échange. Nous allons le reprendre dans quelques minutes en entrant un peu plus dans le détail de l'action de Toulouse Métropole dans le domaine du logement. Avant cela, nous allons écouter le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu.
Et commençons ce flash d'information avec Tisséo qui est jugé pour favoritisme et prise illégale d'intérêt cette semaine dans l'attribution d'un contrat dans le cadre du chantier du métro à Toulouse. La régie des transports en commun toulousain Tisséo en tant que personne morale mais aussi 2 de ses cadres sont poursuivis pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Il est notamment reproché à Tisséo d'avoir favorisé Algoé, une entreprise de conseil en management lyonnaise avant l'ouverture de l'appel d'offres pour le chantier de la troisième ligne de métro. 8 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité ont été requis à l'encontre de Jean-Michel Latte, président de Tisséo Collectivité, de Tisséo Ingénierie et vice-président de la métropole chargé des transports. La défense dénonce un procès politique à 1 an des élections municipales. La décision sera rendue dans 1 mois, le 16 juin. Des sénateurs tarnais veulent relancer le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, malgré la décision de justice du 27 février dernier qui a suspendu les travaux pour des raisons environnementales. Les sénateurs du Tarn ont réussi à faire adopter en commission au Sénat un texte censé court-circuiter la suite de la procédure devant la justice administrative. L'examen en séance publique, premier rendez-vous majeur pour les parlementaires favorables au chantier de l'A69, est prévu en ce 15 mai. Concrètement, il s'agit de faire reconnaître par la loi que ce chantier répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, nécessaire pour justifier aux yeux de la justice les atteintes portées à l'environnement par un tel chantier. Découvrez en cette fin de semaine la 8e édition du festival L'Histoire à venir, un festival d'histoire interdisciplinaire qui a lieu à Toulouse, créé en 2017 à l'initiative de l'Université Toulouse de Jean Jaurès, du Théâtre Garonne et de la librairie Ombre Blanche. Ce festival d'histoire interdisciplinaire a pour ambition de montrer que l'histoire peut nous aider à comprendre les enjeux des débats contemporains. Le thème de cette nouvelle édition, À l'écoute, invite le public à explorer le passé à travers les traces sonores laissées par les civilisations, archives, monuments ou encore bruits de l'histoire. Jusqu'à dimanche, plus de 80 rencontres scientifiques, littéraires et artistiques se tiennent aux quatre coins de la ville rose. Et puis la 21e édition de la Nuit européenne des musées se déroule samedi. Plusieurs musées, monuments et lieux d'exposition de Toulouse ouvrent leurs portes en soirée. Ce sera le cas du couvent des Jacobins qui prolonge son ouverture jusqu'à minuit pour vous faire découvrir les coulisses de sa restauration. Et des animations aussi au muséum qui se place sous le signe des géants. Juste à côté, le Quai des Savoirs vous invite à plonger dans une foule dansante et festive. Si la fête est ouverte à tous, des danseurs professionnels seront présents pour vous initier au battle. Lieu de mémoire, le monument à la gloire de la résistance organise des visites flash de 18h à 22h. La Nuit des musées à Toulouse a attiré 34 997 visiteurs en 2024.
C'était le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix, que je remercie au passage. Et comme nous sommes déjà bien avancés dans cette émission, nous allons tout de suite enchaîner avec la seconde partie, toujours avec Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'habitat et du logement. De manière générale, quelles sont la ligne directrice et les axes forts de la politique et de l'action Toulouse Métropole dans le domaine du logement ?
Alors évidemment, on soutient beaucoup la question de la production du logement, surtout dans la période actuelle où la crise est venue frapper de plein fouet. Et pour vous donner quand même quelques chiffres en matière de logement, notamment locatif social, là où en 2024, nous avions environ 25 000 demandeurs par an, aujourd'hui, en 2023, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont 45 000 personnes. Donc, vous voyez, en 10 ans, on est passé de 25 000 quasiment à 45 000 demandeurs de logements locatifs sociaux. C'est-à-dire que les deux sont liés. La crise du logement aujourd'hui, elle vient frapper aussi bien le logement privé que le logement locatif social. Notre vision et notre ambition pour le logement, c'est... On va faire très très simple, c'est la règle un peu des trois tiers. Quand on a une opération immobilière ou dans la perspective de ces 7000 logements par an, eh bien, on va avoir 35% de logements locatifs sociaux pour répondre à toutes ces personnes qui sont en attente de logement social, parce que déjà c'est très difficile d'intégrer le logement privé aujourd'hui. 35% de logements locatifs intermédiaires, c'est-à-dire entre le logement social et le logement strictement privé, et 35% de logements privés, collectifs, pavillonnaires, intermédiaires, etc. Et cette règle, elle est extrêmement importante et elle va venir s'appliquer sur l'ensemble de la métropole. Pour cela, nous, à Toulouse Métropole, nous soutenons financièrement la production de logements locatifs sociaux avec des fonds dédiés qui viennent bien sûr compléter les peu de fonds que met l'État aujourd'hui sur le logement locatif social. Et nous venons aider les bailleurs sociaux lorsqu'ils construisent du logement locatif social. C'est important parce qu'on en a évidemment énormément besoin. Donc notamment face à la crise qui a largement frappé suite à la guerre en Ukraine, à l'augmentation des taux d'intérêt, à toutes ces difficultés, je fais vite, nous avons voté à Toulouse Métropole un plan de soutien qui a permis justement de soutenir la production de logements. Et lorsqu'on soutient la production de logements locatifs sociaux, on soutient la production de logements dans son ensemble. Et ce qui nous a permis quand même d'atteindre nos objectifs, puisque ce qu'on constate, c'est que même sur ces années 2022, 2023, 2024, qui étaient des années difficiles, post-Covid, guerre en Ukraine, inflation, taux d'intérêt très élevé, les bailleurs sociaux aussi vivent des périodes extrêmement compliquées, eh bien, nous avons quand même réussi à soutenir la production, puisqu'on est dans nos objectifs autour de 2400 logements locatifs sociaux à peu près chaque année, sans discontinuer, avec des années un peu plus fastes, bien sûr.
Vous arrivez à suivre le rythme, si on peut dire. Donc, deux axes principaux à la politique de logement de la métropole. Un logement de qualité pour tous, un logement accessible pour tous. Et il existe une charte d'accessibilité. Peut-être un mot sur ce document ?
Oui, alors elle est importante, cette charte, puisque avec la loi Elan, que nous avons d'ailleurs beaucoup critiquée en son temps, en 2017, parce qu'elle contenait d'ailleurs beaucoup de dispositifs très contraignants et qui ont malheureusement d'ailleurs plongé les bailleurs sociaux dans de grandes difficultés, avant même la crise que nous connaissons aujourd'hui. Cette loi, elle a stoppé l'obligation qui consistait à construire des logements, 100% des logements accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc, de fait, aujourd'hui, en effet, une personne qui est en situation de handicap n'a pas les mêmes options, les mêmes alternatives de choix qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Et nous avons travaillé sur cette charte d'accessibilité afin de compenser, en effet, cette législation qui était difficile pour ces personnes-là. Et cette charte d'accessibilité, on l'a travaillée à la fois avec la Fédération des promoteurs immobiliers qui se sont vraiment emparés de ce sujet, ça c'est extrêmement intéressant, et aussi avec les bailleurs sociaux, avec parfois des choses très simples, peu coûteuses, mais qui permettent malgré tout aux personnes en situation de handicap de trouver des logements adaptés à leur situation.
Vous avez évoqué le logement social, mais il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place, qui sont financés par Toulouse Métropole, pour soutenir le logement sur son territoire. Alors, il y en a notamment, il y a l'aide aux propriétaires.
Oui, alors là, on rentre dans tout l'aspect du logement privé et de la réhabilitation des logements. C'est extrêmement important. On y consacre des fonds particuliers et importants avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui a une déclinaison locale, qui est la commission locale d'amélioration de l'habitat, et qui, à travers divers dispositifs, vient aider les ménages lorsqu'ils souhaitent réhabiliter leur logement. Il y a les ménages à titre individuel, donc des propriétaires occupants qui viennent réhabiliter leur logement avec évidemment des gains énergétiques, c'est très important, ou d'ailleurs en matière d'accessibilité aussi. Et puis il y a tout le champ des copropriétés où nous agissons là aussi à travers des dispositifs particuliers, c'est le plan initiative copropriété. Ce sont des sommes extrêmement importantes qui sont engagées sur ce point par Toulouse Métropole pour permettre en effet de réhabiliter un certain nombre de copropriétés qui sont très anciennes. Ce sont des dossiers très lourds, très longs, mais qui font sortir ces copropriétés de situations parfois extrêmement délicates. Donc voilà, sur l'accompagnement des ménages au travers de ces aides financières, on a accompagné à peu près 8000 ménages sur la période. En 10 ans, ce sont près de 108 millions d'euros qui ont été engagés sur le plan des subventions, dont 20% par Toulouse Métropole, et bien sûr un grand nombre de copropriétés aussi qui sont accompagnées dans ce sens-là. Donc là-dessus aussi, on agit de façon très forte.
Il y a des aides aussi pour rénover un appartement, hein. Ça existe.
C'est pareil, c'est exactement la même chose, hein. Ce sont des aides qui vont s'adresser à des propriétaires, qu'ils soient propriétaires d'une maison ou propriétaires d'un appartement. Évidemment, dans une copropriété, on vient aider la copropriété, c'est-à-dire les parties communes de la copropriété. Quand on fait une réhabilitation énergétique, en général, elle se fait par l'extérieur, mais elle vient impacter les charges de chaque personne. Et donc, lorsque les copropriétaires sont en difficulté, qu'il peut s'agir de ménages modestes ou très modestes, eh bien, on peut venir les aider directement à eux.
Le mal-logement, on sait que ça existe. Il y a des associations sur notre territoire qui œuvrent auprès des mal-logés, éventuellement des sans-abri. Est-ce que vous avez des relations avec ces associations ou est-ce que c'est plutôt la compétence cohésion sociale et inclusion qui a affaire à eux ?
Alors, je dirais les deux, bien entendu. Quand on a travaillé sur le plan local de l'habitat, hein, qui est adossé aux documents d'urbanisme, évidemment que toutes ces associations ont été consultées et que dans nos objectifs de production, on produit aussi et on accompagne aussi ces résidences, je dirais, dédiées pour des personnes donc, qu'on vient sortir de la rue. Alors, évidemment, là, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des logements disponibles. Ça, c'est la partie dont je m'occupe. Mais il faut aussi prendre la personne dans sa globalité. C'est une prise en charge globale de la personne pour l'amener, en effet, à être autonome dans son logement. Et ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est-à-dire on ne peut pas penser qu'on va sortir une personne de la rue, le mettre dans un logement et le rendre autonome immédiatement. Donc il y a une prise en charge beaucoup plus globale de la personne dans ses questions de santé, de sociabilisation, de travail, d'autonomie financière. Et là, évidemment, avec ma collègue Julie Escudier, il y a un travail qui est consacré. Et puis avec l'ensemble, bien sûr, des centres communautaires, communaux d'action sociale et aussi hein, des compétences qui relèvent du département pour toutes ces personnes-là.
Est-ce qu'il y a actuellement ou dans un avenir proche des chantiers, des quartiers où le logement fait l'objet de projets novateurs ou emblématiques au sein de la métropole ? C'est le moment d'en parler.
Alors, c'est difficile de citer des projets particuliers aussi, parce que tel ou tel maire va m'appeler dès demain matin en disant « Non, mais tu as oublié, Karine, tel projet emblématique dans ma commune. » Alors, on travaille toutes et tous beaucoup sur la réhabilitation des quartiers les plus anciens. Moi-même, à Colomiers, c'est un engagement et une ambition que j'ai de transformer les quartiers les plus anciens, souvent des quartiers très sociaux et qu'on doit transformer pour y introduire de la mixité, pour rendre aussi ces logements qui datent parfois des années 60 ou 70, qui sont d'ailleurs des passoires énergétiques, en logements plus modernes et confortables. C'est le cas aussi à Toulouse, et il y a des rénovations emblématiques. Alors bien sûr, comment parler de Toulouse sans parler de la tour Occitanie par exemple, qui
Matabio.
Va être, voilà, Matabio. C'est des grands projets, je crois, de transformation de ville. Il y a des projets architecturaux qui peuvent porter une architecture très spécifique, mais il y a surtout aujourd'hui, dans l'ambition que portent les maires, des transformations de ville pour préparer nos villes aux enjeux finalement de demain.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, Karine Traval-Michelet, d'être venue à Radio Présence pour faire le point sur la situation du logement dans la métropole toulousaine et pour nous présenter l'action Toulouse Métropole dans ce domaine. Encore une fois, c'est vraiment un des principaux enjeux des années à venir. J'invite les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus à consulter le site www.metropole.toulouse.fr pour avoir des précisions sur les dispositifs que Toulouse Métropole met en place concernant l'aide au logement pour les propriétaires comme pour les locataires. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.